dans la tête.
Groovy.
Bonjour, les papous en piste jusqu'à 13h58 pour des jeux de style avec Lucas Fournier, Violaine Schwartz, pour défendre le service de la poste, Eva Almassier, Serge Joncourt s'en chargeront, pour supposer Sophie Divry et Ricardo Mosner au service et expertiser un texte choisi par Patrice Delbourg, expert Patrick Beignet.
Ils eurent dans l'âme comme un carnage de toutes leurs pensées de ferveur et de paix. Ouais. Là, ça met à l'arrière-plan quelque chose de peut-être de politique ou un retour de manifestation. Ou bien, je me dis, il revient de l'enterrement de Victor Hugo. On sait que ça a été le prétexte de toutes sortes de scènes de ce genre-là, de troussage.
Et puis, nous partirons à la découverte d'une balade touristique minimaliste proposée par Jacques Jouet, tous à Popincourt.
La ville de Paris, au fil des siècles et des décennies, a eu le bon goût de nommer pas moins de 6 voies du nom de Popincourt. La rue Popincourt, la cité Popincourt, la rue de l'asile Popincourt, la rue du marché Popincourt, l'impasse Popincourt, et comme si cela n'avait pas suffi, dans un îlot de construction récente, la rue Neuf Popincourt.
Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à retrouver en podcast sur franceculture.fr pour une réécoute. Et vos collections, rejoignez-nous aussi sur Facebook. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui nous découvrent. La radio, c'est aussi le lieu des jeux et des sourires. Et on se lance avec le petit rimailleur. Pour le fond, deux définitions personnelles, quoique objectives. Est-ce que c'est possible? Ça, on verra. Des mots points et voix. Pour la forme, puisque nous travaillons à la petite semaine, certes, mais depuis fort longtemps, sur un dictionnaire en vers de la langue française, elle sera poétique, la forme. Mais comme il plaira à nos deux rédacteurs du jour, Lucas Fournier et Violaine Schwartz, chacun suivi de près par son contrôleur, ils auront le choix des rimes, du nombre de syllabes et même des mots à définir. Voilà, c'est parti, Eva Almassier, vous cherchez le point dans notre dictionnaire de référence, point P-O-I-N-T, puisqu'aujourd'hui, Lucas Fournier a choisi de nous parler du point. Pourquoi ce choix d'ailleurs, Lucas?
C'était un petit mot,
oui,
mais qui a beaucoup de signification.
Et alors, vous aviez envie de jongler avec tout ça?
Avec le point.
Bon, alors, est-ce qu'Eva est au point?
Ravie, mais alors, il y a du boulot.
Parce que c'est notre vie qui est là.
Dans le point.
Dans le point, tout simplement.
Je vois que vous avez quatre pages au moins. Quatre pages de point.
Mais moi, j'en ai autant. Écrit petit.
Alors, vous allez beaucoup travailler, Eva, pour le contrôler.
Oui. Tous les points de détail ne seront scrupuleusement examinés.
Ça se présente comment?
Ce sont des octosyllabes,
oui.
Voilà, avec toujours, des rimes croisées.
Toujours élégant, ça aussi.
Si vous le voulez.
Et des rimes en ouin.
Et c'est la vie, bien sûr. La vie commence à coups de points, P-O-I-N-T-S. Au point du jour paraît l'enfant. Enfin, quand il vient, bien à point. On fait des points à la maman et le papa, lui, fait le point sur l'avenir, évidemment. Les paumes du bébé en pointillés cachent les lignes du destin, mais le petit ferme les points. La vie toujours compte les points. À l'école, on reçoit les bons et les mauvais. Il est des points en sport et dans chaque leçon. En orthographe, on met les points et les virgules. Nous passerons sur le calcul, c'est en tout point pareil, géométrie selon Euclide. On en arrive au point de la rupture. Point d'Alençon, point de Venise et petit point, c'est la couture. Et si c'est rond, c'est point carré. Levons le point. La vie se gagne à coups de points. Quand apparaît l'adolescence, sur le nez fleurissent les points noirs. Ah, l'acné nous met en transe. Le cœur se sent bien mal en point. Point de côté, point d'insouciance, des interrogations, des points, parfois d'exclamations. Les sens à point nommé changent le point de vue. Restons dans la décence. Le poète dit qu'il n'est point d'amour heureux, méfiance. À quoi bon taper du poing? La vie toujours vous met des points sur tous les i de l'existence. Avez-vous des points forts, des points faibles, et votre année de naissance vous donne le droit à quel point d'indice? C'est d'importance pour la retraite. Quels sont vos points de contact, de permis? On pense à tout pour vous, mais à ce point. Alors devant tant d'insistance, on voudrait faire le coup de poing. La vie est pleine de ronds-points. On tourne, on fait les mauvais choix. On va chez le psy pour les points de tension, et du bout des doigts, Le kiné s'est trouvé le point sensible et l'on sent quelquefois que l'on perd le nord et les points cardinaux. La vie devant soi aurait besoin de mise au point. Même quand il est aux abois, l'homme toujours veut mettre un point d'honneur à terre son désarroi. Il suffit de serrer les poings. La vie marque le dernier point, elle vous laisse aller à la ligne, car tout au bout, bien sûr, le point final, c'est elle qui vous l'aligne. Mal en point, en bon point, ce point de non-retour qu'on vous assigne, eh bien, c'est un très méchant point. Le dernier point, selon Littré, ce mot dont je vous fis le point, a 52 sens, tous très différents, mais je ne vais point cataloguer en 1000 traits. Sans être maçon, en 3 points, et pour n'avoir aucun regret. D'abord, j'évoquerai le point, l'hebdo.
Ah.
S'il publie ma chronique. Puis le théâtre du rond-point, où je peux faire le comique. Et pour finir, un point à pitre, point chaud, qui conclut mon chapitre.
C'est pas mal, hein. C'est une réflexion assez profonde sur la vie.
Oui.
C'est un parcours de la naissance à la mort. C'est un philosophe, Lucas Fournier, oui. Qui s'ignore parfois, mais il manquait pas le point G.
Non, mais j'ai évoqué la décence qui m'interdisait de.
C'est là qu'intervient là-dessus. Le point G.
Oui, c'est au moment de.
Eva, vous avez pu suivre
J'ai suivi.
Elle prend des notes comme une folle.
Elle réécrit.
Jusqu'à un certain point, bien sûr.
Oui.
Alors, il manque assez peu de choses. Ça aurait pu être fait en morse. Et donc, il y a des points et des traits du morse qui n'y étaient peut-être pas. Ainsi que faire le point, c'est-à-dire indiquer la position d'un navire. Alors, est-ce qu'il y avait le photographe qui met au point ou utilise des autofocus? Et puis, dans le même esprit, les points brillants, les points lumineux.
Il est en train de vous trouver mesquine, je sens.
Non, mais il y avait 52 points.
Et oui. Point d'orgue pour point d'orgue de l'exercice. Ah.
Non, et point de lendemain non plus. Et point de lendemain, c'est vivant. Donc,
C'est vivant de nom.
Oui, mais c'est vivant.
Alors, c'est une citation qui n'a pas d'auteur, mais les instituts de sondage qui parlent d'un homme politique qui perd 10 points. Dans les sondages.
Tout à l'heure, une personne
qui n'y a pas. Il n'y a pas le nom, et puis bon, ben vous avez peut-être terminé sur les points de suspension, point, 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 à la fin, donc il y a énormément.
Énormément.
Ah, c'est un mot d'une richesse infinie.
Mais toute la littérature est une succession de points.
Hein. Oui.
Oui. Vous auriez une vraie fausse citation, Jacques Vallée ?
Elle perdait ses repères, j'ai mis la vipère au point, Hervé Bazin.
Le petit rimailleur, deuxième mot du jour, le mot voix, choisi par Violaine Schwartz. Qui veut contrôler Violaine ?
Moi.
Allez, Hervé.
Plaisir.
Oui.
Avec X.
Voilà.
V-O-I-X.
De ne pas vous tromper de voix. Vous le chantez,
c'est,
je suppose.
C'est toute ma vie, ça.
Non, c'est pas chanté, ça. C'est une petite comptine. Oui. Voilà.
C'est dommage, parce que voix, ça se chante souvent.
Enfin, on aurait pu y penser. Hein. Moi, personnellement, j'y aurais pensé. Vous progressez lentement.
Je vais rester un petit bout de temps sur vodka.
Oui.
Et puis finalement, je suis arrivé à voix.
Voilà, ça se présente comment dans le dictionnaire ?
C'est juste avant vol.
Oui, c'est nourri, c'est une belle
oh là
voix.
Là, c'est quasiment une colonne de voix.
Ah bah,
c'est normal pour la voix, c'est une colonne d'air. Donc là, une colonne
absolument. Et donc, chez vous, Violaine, c'est une comptine pour les tout-petits ?
Oui, c'est une comptine, mais c'est un petit poème, monorime.
Ah,
voilà.
Très bien.
Il était une voix, une chanteuse à voix, s'appelait Misada. Elle montait parfois jusqu'au contrefa. Portait un boa et avait un chat, comme une vraie diva. Elle déménagea du fond de sa Savoie pour tracer sa voie à Paris, ma foi. Il était une voix, un gars, c'était moi. Je raffolais de son fa, j'en étais gaga. Je ne ratais pas un seul de ses pas sur la scène, tu vois, scène de l'opéra. Mais à Courbevoie, elle se cassa la voix. Elle força son fa dans le solo d'Aïda. Bonjour les dégâts, une sacrée cata. Un filet de voix pour chanter l'aria, ça ne marche pas. Fini l'opéra, fini les galas, tout le falbala. Du coup, résultat, la célèbre Ada sortait plus de ses draps. Entendait des voix, tombait dans le tabac, la marijuana comme une pauvre nana. Il était une voix, une chanteuse sans voix. Fallait que je la voie, que je la sorte de là. Je vais dans Sangalta, je la prends dans mes bras. C'est une mauvaise voix pour vous, Misada. Elle me dit, laisse-moi, je suis très bien comme ça. J'aime plus l'opéra. Et puis, à mi-voix, je change de voix, je suis trop flagada. Du coup, je la tutoie. Je lui réponds, tais-toi, arrête ton blabla. C'est du cinéma, c'est du charabia. Va faire du yoga, mange du chocolat, récite des mantras, mais ressaisis-toi. Je te donne ma voix, je te donne ma foi. Et tu retourneras chanter des arias ou du Dalida, tout ce que tu voudras. L'air de la Tosca, oui, tu le feras, oui, rien que pour moi. Passive, elle resta, passive, comme sa voix. Elle resta les bras ballants sur le sofa. Puis elle s'avala 3 verres de vodka. Quel gâchis, ma foi. Quelle bérésina. J'en perdis ma voix.
C'est très très beau, je trouve. Ah oui, c'est... On sent le travail. Enfin, je veux dire qu'on ne sent pas du tout l'effort, mais ça a été très très
on sent,
travaillé.
Ouais, on sent le boulot. Hein. Il y a...
On sent le boulot.
Il y en a qui bossent. Hein.
Eh ben,
il faut qu'il y en ait quand même.
Ça a toujours été le cas au Papou.
Oui, c'est ça.
Très très jolie, Violaine. Alors bon, je vous ai plus vu regarder Violaine que le
pas
dictionnaire
tout,
Hervé.
Pas du pas tout. C'est-à-dire que Violaine est écrit encore plus gros, si j'ose dire, que le dictionnaire qui est encore 6.
Oui.
Et donc voilà. Ça
vous avez
plus
une petite difficulté.
Légère, mais c'est pas grave. Alors je vous propose quand même une exception qui est un petit peu absente.
Oui.
Qui est la dimension avertissement, appel, inspiration, la voix de la conscience, la voix de la nature, la voix du sang. Que je n'ai pas trop vu dans le texte, me semble-t-il,
qui me semble,
disons, monosémique, comme on dit dans voilà. Alors, je vous propose donc une petite citation, peut-être, de Lotti. Sa mère le gronda en prenant une grosse voix. C'est pas...
Il savait écrire.
Il savait écrire.
Ouais.
Ah, on dira ce qu'on veut. Il savait écrire. Ouais, ouais. Non, c'est pas... Bon, Hugo, hein, franchement, l'horloge... Éleva sa voix grêle et fêlée.
Ah, il y a déjà plus de recherches.
Ouais.
Hein? Et puis
Hugo encore?
Bah oui.
La grosse voix du canon couvrait tout.
Ça, c'est Waterloo.
Bah, oui. Un petit Racine. Rome le louait d'une commune voix.
Pas mal, on s'arrête là-dessus.
C'est la célèbre voix romaine. Hein,
oui.
Et louait, c'est la marque de charbon.
Une petite dernière pour la route.
Alors, pour la route?
Pour la voix.
Alors, peut-être Martin Dugard.
Allez.
Ou alors Musset.
Ouais.
Ah, Musset, c'est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive.
Ah oui, ça c'est beau. C'est très très beau, c'est dans quoi?
Ça veut rien dire, c'est beau.
Bah, c'est ça, Musset. Musset, ça veut pas toujours dire quelque chose.
C'est une voix du cœur qui au cœur
arrive.
Mais
il y a de la musique.
Il y a de la musique.
C'est une voix du cœur qui au cœur vous arrive, c'est très très beau.
Oui.
C'est du cœur à cœur, quoi.
Quelque chose à ajouter, Hervé?
Non.
Non.
Absolument, rien à voir.
Après ce refus
non,
de Musset et Brison là.
Côté, la voix dans le sens vote.
Ah, donner sa voix à quelqu'un.
Ah, oui,
oui c'est un léger oubli, mais bon. On avait le droit de faire ses choix.
Bien sûr, bien sûr. Ah, on est républicain, on ne l'est pas. Hein
voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de voter.
Voilà.
Un extrait de la bande originale du film Marguerite.
Il y a des papous dans mon quartier.
Et sur France Culture.
Râleurs de toute catégorie à vos pamphlets. Avec Eva Almassier, Serge Joncourt, écrire pour laisser une trace de ce que l'on dénonce. Mais dire à haute voix aussi pour marquer les esprits. Jean-Bernard Puy, par exemple, est contre les valises à roulettes. Gérard Mordia contre le coulis de framboise. Est-ce possible? Odile Conseil contre les étiquettes à l'intérieur des vêtements qui nous grattent, rougissent la peau. On a tous en nous des révoltes pour des petites choses qui insupportent, font perdre du temps et parfois des emplois. Tenez, enleveur d'étiquettes pure laine, pure soie ou made in ailleurs sans faire de trou, ça ce serait un bon petit métier. À la Camille, note en bas de page pour Camille. Camille, l'auteur génial et loufoque du scaphandrier de la Tour Eiffel et de la famille Rikiki, entre autres, une œuvre immense et très très drôle. Et Val Massy est en colère en ce début janvier. Elle nous en fait la confidence au papou. On vous écoute, Eva.
Que ne suis-je pas Don Quichotte? Je me mettrai un saladier sur la tête, je brandirai ma lance et je m'attaquerai aux automates de la poste. Mais je ne suis pas Don Quichotte et ces distributeurs ne sont vraiment pas géants. J'ai une lettre à poster, la levée de la boîte dans 6 minutes et la queue n'avance pas plus vite que Rossinante. D'ailleurs, on a tout de suite envie de donner des coups d'éperon à son prochain. Entendez par là le monsieur qui dubitatif pose son enveloppe Kraft sur la balance de la machine et regarde médusé l'écran au lieu de valider le poids en appuyant en bas à droite flèche verte. Moi, je sais déjà les étapes par cœur. Mais ce monsieur, il hésite, il s'est endormi ou quoi? Lui donner des coups d'éperon et lui donner des coups de cravache, lui donner des coups d'alphabétisation, le tuer. Aucune autre machine ne me met autant en rogne que celle-ci, la machine à affranchir qui m'affranchit de toute réserve. Le monsieur face à l'écran qui vient après le choix épineux. Envoyer un courrier, un colis, acheter un carnet de timbres ou des vignettes au montant de son choix semble cette fois hésiter entre la France métropolitaine, Monaco, l'outre-mer ou le monde. Je mise désormais tout mon espoir sur la jeune femme qui tape de l'index gauche une adresse sur le clavier virtuel pour son envoi recommandé avec accusé de réception. Il faut dire que dans mon bureau de poste, on a eu la bonne idée d'installer 2 de ces machines infernal pile en face de la porte d'entrée. Ceux qui viennent pour déposer ou retirer des sous, pour rechercher un colis, ouvrir un compte ou acheter des emballages se frayent un chemin à travers nos autres pauvres Pékins et nous piétinent sans état d'âme. La jeune femme à l'automate de droite n'a pas fini d'épeler l'adresse de l'expéditeur. Comme je la comprends malgré ma haine, je demeure boulevard, pas BD, boulevard en toutes lettres s'il vous plaît, Beaumarchais, AIS, à Fontenay, Tirez-le, Fleury, Y. Et pourquoi pas dans la Marne, à Saint-Rémy, en Bouzemont, Saint-Geneste, ils sont 45 lettres. À cause de ces automates, je rêve de déménager un rue de la Paix à Pau. Parfois, pour gagner du temps, lorsque je n'en peux plus et qu'il me faut encore choisir pour la destination entre tous les pays du monde entier, commençant par HON, j'envoie mes lettres pour la Hongrie au tarif de Hong Kong. Le monsieur de la machine à gauche sort de nulle part une autre enveloppe, plus petite, que jusqu'ici il avait sournoisement dissimulée, et la pose de rechef sur le plateau de la balance. Valide le poids, s'il te plaît. Même pas 20 grammes, je le vois d'ici, malgré la ligne de discrétion peinte en bleu sur le sol. Je préfère sa machine à lui, parce que celle-ci délivre des carnets de timbres rouges au tarif prioritaire J+1, tandis que l'autre daltonienne ne garde dans sa bedaine que des timbres verts, J+2, ou alors bien sûr les vilaines vignettes.
On a l'impression, Eva, que vous passez vos journées à la poste.
Mais c'est le cas. Que dire des temps heureux où au guichet le jeune préposé au sourire charmeur m'ouvrait son éventail de beaux timbres, les pivoines de Manet et les nymphéas de Monet. On n'a plus guère cette option florale que la veille de la date limite des déclarations de revenus ou du premier tiers des impôts, parce que ce jour-là, je vous jure, la queue s'allonge sur le trottoir jusqu'à la boutique du fleuriste. Eureka! Le monsieur s'apprête à payer. Là, les nymphéas de Monet. Monet. Pas plus de 20 pièces, indique l'écran. Mon Dieu! Fait qu'il n'en insère pas une 21e pièce de 1 centime. Si! bingo, ça dégringole, le gros lot, tout est à recommencer. Et Bernadette Chirac, jamais entendu parler. Bernadette, elle est chouette. Les pièces jaunes pour l'hôpital, si ça continue comme ça, je vais me retrouver moi aussi aux urgences. Mamma mia, il dégaine son âme fatale. L'innocent paquet posé à terre à côté de lui se révèle être un colis. Le temps qu'il arrive à l'écran, colissimo, colissimo suivi, colissimo suivi avec signature ou colis écho à la jeune femme qui a payé par carte bancaire. La machine demande en toute simplicité si elle désire 1 un reçu, 2 un ticket CB, 3 un reçu plus un ticket, 4 factures réservées au client pro ou 5 rien. Ouf, j'y suis. Je fais aussi rapidement que possible, paf, paf, paf. Tiens, je ne saurais plus envoyer Don Quichotte au tarif lettre, même en édition de poche. L'enveloppe doit faire moins de 3 cm d'épaisseur. Rien que la tranche de jambon de Sancho Panza serait plus épaisse que ça. Je ne demande surtout pas de reçu. J'insère une pièce, j'en récolte 4 pour Bernadette et je quitte la scène en laissant ma place au client suivant avant de coller une neutre vignette autocollante sur ma fiévreuse lettre d'amour. À toi pour toujours t'adulciner. Les boîtes se trouvent dehors, il pleut à seaux, l'adresse calligraphiée se brouille, ça ne partira plus que demain de toute façon. Merci le progrès, vive les machines, je m'en lave les mains.
Non mais vous avez une telle connaissance qu'à mon avis vous devriez inventer un petit boulot, vous seriez à côté des gens et vous les conseilleriez.
Ah ça, parfois j'ai envie de le faire.
Ouais. Vous pratiquez, Serge ?
Non, j'envoie des mails, moi. C'est...
Oui.
Non affranchi.
C'est le point de vue que vous allez défendre là, c'est ça. N'allez plus à la poste, restez devant votre ordinateur, c'est ça.
Oui, non, non, non.
Non, c'est pas ça.
Non. Non, je suis le. Je suis désolé de débarquer comme ça. Je suis le monsieur devant.
L'agaçant. Le lent, le très lent.
De soleil.
Oui, l'agaçant, je ne sais pas. Enfin bon, je, celui qui fait attendre tout le monde.
Ah oui.
Celui qui crée le bouchon.
Oui.
Parce qu'il en faut bien un. Je ne nie pas, c'est vrai. C'est vrai que deux fois par mois, je vais à la poste et je passe une bonne partie de l'après-midi. Devant la machine à oblitérer, à enfranchir, devrait-on dire. Enfin bon, bref. Alors, vous me direz, pourquoi je fais ça ? C'est pas uniquement par goût de nuire à mes contemporains, c'est pas uniquement pour enquiquiner le monde, je monopolise l'automate. Non, pas du tout. En fait, je vais vous dire, il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, comme tout à chacun, je crois, c'est perdre de l'argent. Ouais. Je pense en particulier à toutes ces micro-pièces.
Les toutes petites jaunes.
Rouges, je crois.
Ah, un centime, oui, cuivre.
Enfin, cuivre. Cuivre, oui, de 1 centime, 2 centimes d'euros. Ces minuscules confettis monétaires que l'on a tous au fond de nos poches, de nos sacs, allez-y, vous allez voir. Y compris même entre les lames de nos parquets. Enfin, tout ça. Non, oui, mais oui, tout ça, vous faites comme ça. Mais non, c'est de l'argent, tout ça, c'est de l'argent. Alors donc, sans parler de cette petite monnaie, cette quincaillerie de pièces de 5 centimes, voire 10, 20 aussi d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous en avez
remarqué. C'est gros déjà 20 quand même.
Alors, c'est simple, les commerçants, à longueur de journée, sont là devant moi, à se désoler, parce qu'il n'en est pas vous, qui n'ont pas de monnaie. J'entends ça à chaque fois que je fais des courses. À croire que c'est moi qui l'ai toute. La monnaie. Bon. Donc, c'est impossible. Hein. Deux fois par mois, je ramasse tout ce que je trouve chez moi, au fond de mes poches, de mes sacs, des poignets. Et avec ça, donc, je vais à la poste et je négocie avec la machine à oblitérer. Je négocie. Voilà. Donc. Alors, je la remplis d'abord de pièces de 1 centime, les plus petites, là, les minuscules qu'on voit à peine. Je lui en fourre une bonne centaine dans le gosier. Hein. Ça prend du temps, c'est vrai.
Je ne dis pas. Vous apportez un petit client, non, pour vous asseoir.
Et là, non, je debout, hein, fais un peu de sport, ça fait pas de mal. Oui. Donc, et là, j'attends, je vois ce qu'elle me propose.
Hein.
Oui, parce qu'elle fait une offre. Hein. Donc, en général, à ce tarif-là, elle m'offre 2 écoplis France métropolitaine ou 1 écoplis aller-retour vers la zone Asie. Bon. Hein. Alors dans ces cas-là, bon, bah, je surenchéris, je fais monter les enchères, j'attaque l'automate à coups de pièces de 5
centimes.
100 centimes, bien sûr, 100 centimes seulement. Et là, déjà, ça commence à monter un peu plus vite. On arrive très vite dans la zone des courriers suivis. Ouais. Courrier suivi, ça fait rêver. Ouais. Alors, histoire de marquer un peu le coup, je valide. Hein. Je prends deux étiquettes.
Ouais.
Deux étiquettes, plus deux, c'est deux J plus deux. C'est les étiquettes. J plus deux, madame connaît ça. Ouais, qui était expert. Non, mais je parle à une. Hein. Et puis même, j'ai droit parfois à un demi recommandé.
Sauf le week-end.
J plus deux, sauf le week-end. Oui, enfin là-dessus, il y a débat parce qu'il y a les jours fériés aussi.
Exactement.
Ça peut faire J plus 4. Hein.
Oui,
ouais, ça facile, ça peut aller haut. Hein.
Pardon, c'est un peu technique. Là, mais
ouais, ouais. Là.
Oui.
On a perdu Hervé Letellier et Ricardo là-dessus.
Je vais demander dans quel poste il va. Il ne faut surtout pas y aller.
Alors, bon, alors évidemment, je sens bien que la tension monte un peu derrière moi.
Oui, oui.
Ouais. Ça trépigne. Mais
et vous donc, pourriez coup, leur dire un petit mot, non?
Non, mais non, je suis concentré. Là. Il ne faut pas perdre le fil. Hein, c'est ça. Donc j'attaque, bon, alors les pièces de 10 centimes et de 20. Et là, je glisse dans la fente une par une. Et bon, c'est vrai que là, on a vite fait d'accéder à la sphère chanceuse du Colissimo.
Ouais. Hein, bah, oui.
Ah ouais, carrément. Ouais. Colissimo, allez, bon, trois, j'en prends. Banco, trois étiquettes de Colissimo, je les prends. Hein. Ouais. Ça me fait déjà ma petite poignée, ma petite liasse hein, d'étiquettes. Bon, je continue comme ça. Jusqu'à ce que je n'ai plus de monnaie dans les poches, plus rien, plus un centime, rien. J'ai que ma petite poignée d'étiquettes. Hein. Voilà. Alors, avec ça, qu'est-ce que je fais, vous allez me dire?
Vous allez écrire les lettres?
Non, non, non. Alors, vous savez, c'est un peu comme pour les matchs de football avant les grandes occasions. Hein. Je prends ma petite pièce d'étiquette et je me mets devant ma poste fermée les jours de pont, de week-end et de jours fériés.
Ah.
Et là, je les revends le double et je fais un malheur.
Oh non.
Ah bah si.
Vous êtes comme ça?
Ah bah comme ça, comme ça, comme ça. Comment croyez-vous que je me sois payé une montre en en plastique?
Bon, bah vous, en tout cas, vous avez pu faire connaissance tous les deux, Eva.
Oui, mais désormais, j'y vais le dimanche.
Vous ferez un prix.
Oui.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur, là y'en a une. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute. Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un. Caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras. Tour ton ballot, le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Gainsbourg, en relisant ta lettre. Il joue au jeu des suppositions, un jeu cher à Prévert, dont on célébrera en avril les 40 ans de la disparition. Un jeu presque enfantin, mais auquel Sophie Divry et Ricardo Meusner joueront sérieusement, comme les enfants. Qui, lorsqu'ils jouent, sont tout à leur jeu. Une supposition, Sophie, suffit d'un nom un peu brinzingue, d'une histoire dont la chute sera un calembour sur le dînon. Alors, c'est la première fois que vous jouez au jeu des suppositions, Sophie Divry. À qui adressez-vous votre histoire? Vous avez le choix.
À Jacques Jouet.
Honneur à l'âge.
Jacques. Tout de suite, le coup de pied de l'âne, tout de suite.
Imagine que tu t'appelles Silla.
Silla.
Docteur Silla, tu es un ingénieux chimiste. Chaque jour, une nouvelle invention. Tu habites au cœur d'un quartier anarchiste où les résidents n'ont guère d'éducation. Ton laboratoire est niché dans une vieille cabane. Tu y inventes de très jolies couleurs. Elles ébahissent. Les visiteurs profanes qui te dérangent tous les jours à toute heure. Mais si on vient te voir, c'est pour la rigolade. Quand tu fis du jaune, plus réussi que jamais, tu vis deux amoureux venir en promenade, se bécotant, gentil. Tu crus qu'ils t'admiraient.
Oui.
Puis, tu entendis Jules dire, cet abruti, « T'as vu, poupée, il est tout jaune, le savant fou. » Certes, du sol au plafond, tout était canari. Ils partirent en riant, la fille disait « Mon chou, mon chou !» C'est vrai si là, tu mets le feu trop fort sous tes décoctions. Quand ça fait boum, tu en es recouvert. Mais le plus triste, c'est le refrain qu'entonnent alors tous les garçons. « Poupée, si on allait visiter le chimiste, ça t'humilie si là. »
Non.
Ça t'humilie si là. Mais aujourd'hui encore, alors que tu concoctes un rose magnifique, tu risques de te faire engloutir par tout cet acrylique. Le gaz sous la marmite, il est beaucoup trop fort. Tout le quartier sait bien quand ça explose. Les hommes ont entendu la déflagration. Et Jules fait à sa copine cette proposition. Mignonne, allons voir si la rose.
Je cherchais Caribe de moi bêtement. Mais...
Ah, vous étiez très très loin.
C'était très loin.
Scylla Rose.
Oui.
C'est bien. Elle est bien. Hein.
Parfait.
Eh oui, c'est vrai, elle est parfaite. À vous, Ricardo Mosner. Vous aussi, vous pouvez choisir le papou à qui vous dédiez votre histoire calembourgeoise et de supposition. On a tous envie d'être choisis.
Je m'adresse à Chaka, alors.
Chaka Bertrand, il est content?
Je suis très enchanté.
Je sais pas, on verra. Suppose que tu t'appelles Lareux.
Lareux.
Lareux. L-A-R-E-U.
Comme les frères Lareux.
Voilà.
Oui.
Tu as eu une enfance difficile, Lareux. Tu n'as pas eu de chance, Lareux. Tu as étudié l'astronomie, Lareux, mais les astres n'ont pas été de ton côté. Tu as étudié la littérature, Lareux. Tu as lu Victor Hugo. Tu as noté ses mots. La gloire est un astre tardif, lune sereine et sombre qui s'élève des tombeaux. Mais pour toi, Lareux, elle ne s'est jamais levée. Tu vis dans ton monde, Lareux, enfermé dans tes pensées, tes délires. En vieillissant, tu t'accroches aux lubies les plus aberrantes. Tu as inventé une machine, Lareux, avec trois pipes, un fer à repasser, une boîte de camembert et un vieux transistor à galène. T'es pathétique, Lareux. Tu craches des mots par les embouts des pipes. Les sons sortent transformés et tu dis que tu parles avec Goethe, Socrate, Hemingway, Calamity Jane, etc. Et tu vas avec ton machin dans des tavernes sordides, tu fais des fumeuses démonstrations pour te faire payer des coups. Toi, Lareux, qui te voyais prix Nobel, poète à l'académie, mais le pire, Lareux, c'est que tu crois tes salades. Et chez toi, dans ton sordide cabanon, où tu n'as jamais amené personne, tu parles à travers ta machine avec Tina, ton amour impossible. C'est idiot, Lareux. Tina habite à deux pas. À la place de faire tout ce cirque inutile, Lareux, tu pourrais aller la rejoindre, même lui montrer ta machine imbécile. Tu connais 1200 poèmes par cœur, les noms de toutes les constellations, Lareux. Elle n'attend que ça, Lareux. Que quelqu'un vienne lui raconter des histoires, lui expliquer l'univers. Mais tu es né engourdi, Lareux. Tu préfères aller faire les pitres dans des bars malfamés où les poivrots te demandent de faire marcher ta machine pour parler avec des joueurs de foot et des stars porno. Tu étais ruminé tout ça dans ta cuisine, noirci par la lampe à pétrole quand on frappe un coup, deux coups, puis trois coups à ta fenêtre. Un visage ovale, sans sage, et derrière la vitre. C'est Tina. Tu sais pas quoi faire, Lareux. Tu sors, tu dis n'importe quoi, que tu es très occupé, que tu parlais avec Lady Chatterley, que tu dois finir ton roman. Tina te caresse l'épaule. Tu dis que tu vas chercher ta ridicule machine, Lareux. Tina est patiente. Il se fait tard. Lareux, désorienté, tournicote, taciturne, fort inquiétant comme Saturne. Les astres rayonnent là-haut, dans les noirs. Tina est toujours là. Elle n'est pas pressée. Elle attend. Lareux, cherche du temps, perdu.
Oh, oh mon Dieu, mais que c'est beau!
Ouais, allez-vous chercher tout ça?
Oui.
Lareux,
la cuisine.
Cherche Martine. Du temps perdu.
Oui.
Alors moi, quand il y a eu Tina, j'ai pensé à Tina Turner, mais effectivement, ça n'avait aucun rapport avec l'histoire.
Oui, à Albertina.
Oh, très, très beau. Hein.
La recherche du temps perdu, magnifique. Mais en même temps, la redoute. Hein.
Rires. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart et la bande des papous du jour. À suivre, le diagnostic littéraire à l'aveugle et une expérience de tourisme minimal pour janvier proposée par Jacques Jouet et testée par Patrick Beignet. Place au diagnostic littéraire à l'aveugle, ou DLA, avec Patrice Delbourg dans le rôle de maître du jeu normal. Il a préparé un bon petit piège littéraire pour nous tous qu'il nous présente anonymement. Les experts papous, Jacques Vallée, Eva Almassy, Patrick Beignet et vous, qui jouez chez vous, sentez-moi peut-être donc moins exposé aux blessures d'amour propre. Pas de risque d'être pris en flagrant délit de cuir littéraire, ce n'est pas le cas du tout de nos experts qui s'exposent à la risée de tous, à leur sympathie aussi. Nobody's perfect, l'erreur est humaine comme on dit, et ce n'est pas un jeu facile puisqu'il s'agit d'identifier l'auteur d'un court extrait de littérature. Mais de quel siècle, écrit en quelle langue, originale, appartenant à quel mouvement littéraire, écriture féminine ou masculine? Alors je vois déjà certaines grimaces, il n'y aurait pas d'écriture féminine ou masculine, certes. Mais au moment de prononcer le nom d'un auteur possible, vous savez bien que le monde se divise en deux. C'est l'heure exquise du DLA. Patrice Delbourg, vous nous faites la lecture de l'extrait en jeu.
Il l'avait enfin déterminé, après de longues instances, à venir dans une chambre d'hôtel qu'il avait louée pour 2 heures. Elle se défendait encore d'y aller, appréhendant un malheur. Mais il bruinait, et les débits de boisson débordaient. Elle se laissa entraîner. Elle avait envie de pleurer en montant les marches. Quand ils entrèrent, Auguste déposa sur une table ronde et plaquée de marbre des biscuits et du vin. Le garçon leur apporta 2 verres. Désirée s'assit près de l'âtre, et elle se ratatina, se fit petite, la tête basse, les pieds juchés sur les bâtons de la chaise. À l'aspect de ces murs qui avaient vu défiler tant de sabbats vagabonds, tant d'amours bestiales, tant de misérables nuits, à l'aspect de cette cheminée qui se gerçait et brûlait sans tirage, de ces quelques flammes qui, se coulant derrière les bûches mal rapprochées, léchaient la plaque du fond que n'abritait aucune cendre, un grand frisson leur courut dans le dos. Comme un psaume de lamentation, la sépulcrale horreur des hôtels meublés s'éleva de cette bauche sordide. Auguste et Désiré eurent dans l'âme comme un carnage de toutes leurs pensées de ferveur et de paix. Le jeune homme versa du vin à la petite, mais elle n'avait pas soif. Lui s'engorgea précipitamment des rasades. Puis il rapprocha son siège et, le sang aux joues, les mains tremblantes, brusquement il la troussa.
C'est la fin. Il y a du vocabulaire, non, Jacques Vallée?
Oui, c'est tout à fait un texte delbourgien, choisi par Delbourg. Et
parce qu'il l'aime,
parce que c'est un texte qui appartient à ses désemparés, c'est-à-dire époque un peu naturaliste réaliste, très Hôtel du Nord.
On c'est presque voir du un cinéma.
Couple, un côté Édith Piaf aussi, on croit voir un couple arriver... Et puis s'installer dans cet hôtel...
Se tenant par la main, comme dans la chanson, oui.
Voilà, il y a ce côté un peu populaire et chanson dedans.
D'accord, mais il a la nostalgie de ces époques-là. Patrice Delbourg, c'est un nostalgique. Patrick Beignet, vous avez ri, je vous ai entendu rire quand j'ai dit qu'il y avait du vocabulaire.
Oui,
vous trouvez
oui,
pas
c'est pas faire un grand compliment à ce texte. Le vocabulaire, c'est très bien, mais il faut encore un vocabulaire un peu cohérent. Ici, ça donne dans l'hétéroclite. Dans, je dirais, la perte de repères. Hein,
c'est un peu foutraque, vous diriez.
À la fois une grandiloquence appuyée et un goût de la familiarité. Effectivement, on est entre Zola, et, enfin, il ne faut pas citer de nom déjà.
Pas mais, déjà.
Imitations parodiques de Zola. Oui, c'est très déconcertant. Pour reprendre ce que disait Jacques, ce côté très delbourgien...
Oui.
J'en serais presque à me demander si ça n'a pas été écrit par Patrice lui-même. La
ce
bouge en particulier.
Un piège sublime. Vraiment... Ben oui, c'est pour ça que je parlais de la richesse du vocabulaire que tout le monde connaît au papou chez Delbourg. Eva Almassy, première impression.
Moi aussi, j'avais une impression de cinéma. Alors que le texte ne disparaît pas derrière ses propres images, on l'entend aussi, il y a des allitérations très fortes par exemple, mais il bruinait et les débits de boisson débordaient. C'est presque un plaisir labial quand on prononce soi-même. Cela dit, je m'intéresse à ce couple où cette pauvre Désirée... l'est littéralement, c'est-à-dire qu'elle est désirée qu'elle va passer à la casserole. Oui. Il y a déjà...
il la trousse à la fin, quand même.
Oui, c'est ça. Il y a ça, cette violence dans ce texte.
Oui.
On décrit du sordide, où on était déjà précédé par d'autres qui avaient loué la même chambre pour 2 heures seulement. Donc c'est inéluctable.
Quand on se fait trousser, Jacques Vallée, c'est un côté violent. Elle a raison, Eva. C'est pas câlin, quoi.
C'est un couple qui va à l'hôtel pour faire l'amour. Bon, c'est pas, il lui saute pas dessus. C'est une rencontre entre un homme et une femme tout à fait ordinaire. Mais ce que je voulais dire pour en revenir au vocabulaire, puisque tout à l'heure j'ai pas tout à fait répondu à ça, c'est que il y a un côté vieillot, un peu cette bauche sordide. C'est des choses que l'on ne dirait plus. Beaucoup de choses datent, des amours bestiales. C'est très forcé, tant de misérables nuits, ce sabbat de vagabond. Plus personne n'écrirait des choses comme ça. C'est très, très daté. Et c'est même pas daté du 20e siècle. Ça pourrait aller au-delà du très 19e siècle. Parce que, fin 19e siècle, disons.
Troussé, oui, c'est, ben, c'est ancien.
Oui, mais troussé, c'est naturel. Enfin. Vous avez l'air de vous étonner qu'un homme et une femme qui vont à l'hôtel ne se troussent pas. Mais enfin, je vois pas ce qu'ils viendraient faire dans cet hôtel. Que viendraient-ils faire dans cet hôtel, madame?
Bon, écoute, je ne sais pas, moi, chacun. Patrick Beignet, l'époque, vous êtes d'accord avec Jacques Vallée?
Absolument, j'ai tout de suite cru reconnaître la fin du 19e siècle. Ce côté, oui, post-Zola, avec des... Jacques parlait de ce style un peu vieillot, en particulier il y a l'antéposition de l'adjectif, hein, pour être un peu pédant, la sépulcrale horreur ou les misérables nuits.
Aussi,
aujourd'hui, on n'écrit plus comme ça, on ne dit pas en tout cas la sépulcrale horreur.
Peut-être.
Comment?
Si c'est une traduction, la place de l'adjectif est pas mauvaise.
Non.
Si c'est un texte du 20e siècle et que le traducteur s'amuse à en faire du 19e siècle, c'est pas quand même un traducteur très précis.
Ça peut être un texte du 19e et que le traducteur traduit comme on traduisait au 19e.
Ah oui, peut-être.
C'est une opinion personnelle.
Peut-être qu'on se laisse hypnotiser par les prénoms qui sont
Auguste et Désiré.
Ou alors c'est une violence sociale, et peut-être ils sont très jeunes malgré ce prénom Auguste du garçon. Il doit quand même s'encourager de plusieurs verres de vin, tandis qu'elle se fait petite. Donc aussi bien, ils sont très jeunes, et Jacques a raison, ils vont faire l'amour et pas du tout dans un contexte sordide autre que leur pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer ailleurs, peut-être, que dans un hôtel de passe.
Mais ils ont de quoi se le payer, quand même.
Voilà, mais donc c'est pas grand-chose, c'est l'équivalent de ce qui ils auraient peut-être dépensé dans ces débits de boissons qui étaient trop pleins.
Vous êtes d'accord sur l'époque?
Oui, absolument.
19e, donc.
Oui, des prénoms datent énormément. Les prénoms
vous savez, des Augustes, il y en a dans les crèches, maintenant.
Oui, mais Auguste et Désiré...
Une Bauge, si vous voulez, une crèche, non.
Cela dit...
Mais faire un couple Auguste et Désiré, c'est quand même accoupler les deux.
Cela dit, comme on avait aussi des réminiscences de cinéma qui nous venaient, Hôtel du Nord ou Enfants du Paradis, ça peut être aussi le 20e d'avant guerre.
Patrick Beignet.
Nous sommes tellement d'accord sur l'époque tous les trois que c'en est inquiétant.
Possible,
on peut se demander si ce n'est pas un exercice de style à la manière d'un écrivain naturaliste. C'est trop bien pour... trop conforme à ce qu'on attend.
Et un exercice de style qui serait volontaire ou qui serait une maladresse?
Oui, alors il a beaucoup bu.
Et puis aussi des précisions comme il versa un verre de vin à la petite.
Oui.
Le côté, la petite, on n'écrira plus non plus des choses comme ça sur un couple.
Oui.
Par contre, si on souligne le mot sépulcrale horreur, ça peut être aussi de la fantaisie. À la mode aujourd'hui, on veut faire un roman gothique et donc on surcharge, on introduit un décor où peut-être des choses totalement sanglantes vont arriver.
Relisez-nous ça, Patrice Delbourg. Il a un sourire ravi, Patrice.
Il l'avait enfin déterminé, après de longues instances, à venir dans une chambre d'hôtel qu'il avait louée pour 2 heures. Elle se défendait encore d'y aller, appréhendant un malheur. Mais il bruinait, et les débits de boissons débordaient. Elle se laissa entraîner, elle avait envie de pleurer en montant les marches. Quand ils entrèrent, Auguste déposa sur une table ronde et plaquée de marbre des biscuits et du vin. Le garçon leur apporta 2 verres.
C'est-à-dire qu'il donne une dramaturgie à ce texte, Patrice Delbouis. Continuez, pardon de vous avoir interrompu, mais j'adore votre lecture, votre façon de lire ce texte.
J'en donne connaissance à mes camarades.
Oui.
Désirée s'assit près de l'âtre et elle se ratatina, se fit petite, la tête basse, les pieds juchés sur les bâtons de la chaise. À l'aspect de ces murs, qui avaient vu défiler tant de sabbats de vagabonds, tant d'amours bestiales, tant de misérables nuits, à l'aspect de cette cheminée qui se gerçait et brûlait sans tirage, de ces quelques flammes qui, se coulant derrière les bûches mal rapprochées, léchaient la plaque du fond que n'abritait aucune cendre, un grand frisson leur courut dans le dos. Comme un psaume de lamentation, la sépulcrale horreur des hôtels meublés s'éleva de cette bauche sordide. Auguste et Désiré eurent dans l'âme comme un carnage de toutes leurs pensées de ferveur et de paix. Le jeune homme versa du vin à la petite, mais elle n'avait pas soif. Lui s'engorgea précipitamment des rasades, puis il rapprocha son siège et le sang aux joues, les mains tremblantes. Brusquement, il la troussa.
C'est vrai qu'il y a de la tendresse, finalement, dans cette façon de trousser. Hein. Il a quand même le sang aux joues, les mains tremblantes.
C'est un viol.
Non, ça ressemble pas.
Mais il y a un côté misérabilisme un peu complaisant, je dirais. Ce côté misérable est souligné à chaque phrase, à chaque mot. C'est tout à fait du Zola. C'est sorti d'un roman de Zola. Il écrirait aussi avec cette mise en scène misérable.
Mmh. Mmh. Dites-moi, Patrick Beignet, est-ce que... Oui, Eva.
Non, se ratatiner, ce n'est pas un mot dans Zola. C'est plus moderne que ça.
Ouais, c'est possible. Dites-moi, Patrick Beignet, ces deux personnages, à votre avis, sont les personnages principaux du roman ou de la nouvelle? C'est quoi, d'abord?
Écoutez, comment est-ce que c'est découpé par Patrick? C'est une question. Moi, j'étais d'emblée, je réponds indirectement à votre question. D'emblée, j'étais un peu surpris de l'usage des pronoms, hein, le il au début. Au lieu de dire Auguste, mais évidemment, c'est
il l'avait enfin déterminé.
Si bien que lorsqu'on arrive après avoir un malheur, mais il bruinait, j'ai eu une petite hésitation sur le. On n'a toujours pas eu de prénom à cet endroit du texte. Donc je suppose que c'est tiré d'un roman où ils sont sans doute des personnages importants. Ce qui m'a frappé à la deuxième lecture, c'est dans le dernier paragraphe, ils eurent dans l'âme comme un carnage de toutes leurs pensées de ferveur et de paix. Oui. Là, ça met à l'arrière-plan quelque chose de peut-être de politique ou un retour de manifestation, ou bien je me dis, il revient de l'enterrement de Victor Hugo, hein, qui a été. on sait que ça a été le prétexte de toutes sortes de scènes de ce genre-là, de troussage. Donc,
oui,
absolument.
Oui. Mais merci de l'avoir souligné.
Ou même un meurtre.
Le grand mot tout de suite.
Non, mais par exemple, le supplice d'Henri IV.
Oui.
Ah, vous remontez très loin,
de Ravaillac.
C'est pas la même époque, quand même.
Oui. Oui, mais il y avait les mêmes scènes de rencontres entre les hommes et les femmes autour du spectacle. Ah, oui. C'est ce que raconte Casanova dans ses mémoires.
Là, ce carnage de toutes leurs pensées de ferveur et de paix, soudain, ça ressemble un peu à De l'Aragon. Voilà, oui, donc ça nous ramène une époque bien plus tard. Merci de l'avoir souligné, mais du coup, vous avez semé le doute dans mon esprit.
Non, mais Aragon, ça expliquerait la surcharge quasi parodique dont il est capable. Et là, quelque chose revient.
Mais c'est très... Parce qu'Aurélien, c'est pas écrit comme
non,
ça.
Non, mais les communistes, c'est vrai.
J'ai dit, choisis des prénoms plus beaux que Auguste et Désiré, quand même.
Aurélien et Bérénice. Vous avez une idée de nom? Qui aurait pu écrire ça? Eva Almassi.
Je vais quand même pas dire Aragon, je vais dire le premier nom que j'ai noté, c'était Barbé d'Orvilly. Oh.
Ah oui.
Oh. Ah, ils sont extrêmement en désaccord avec moi.
mais bon.
En tout cas, Patrick a l'air assez con.
Et j'exprime fermement mon désaccord.
Et c'est... pourquoi ?
Parce que c'est mal écrit. C'est ce que j'appelle du mal écrit. Alors que
ce qu'on vient de lire.
Oui, oui, oui. Alors que Barbet, quand même,
c'est
a un goût de...
Oui.
Bon, moi, je pense à quelqu'un qui, pour moi, a l'autre échelle de valeur littéraire par rapport à Barbet d'Orvilly, c'est Jean Lorrain. Qui est dans la
Mais ça, ça traînée, ressemble bien à Patrice Delbourg.
Dans la traînée post-naturaliste,
oui.
Enfin, il y a une sorte de volupté de mal écrire, peut-être. Et la surcharge. J'ai tout de suite pensé à lui, mais si ce n'est pas de la pure parodie, comme on a évoqué la possibilité.
Non, mais j'ai une très bonne idée sur mon Jacques Vallée.
Ben moi, je pense à un écrivain du fin 19e siècle, un peu naturaliste à une période et qui n'est pas resté tout le temps naturaliste, c'est Huysmans.
Ah, c'est intéressant.
Qui a écrit des romans réalistes et populaires au départ, Marthe ou je sais pas, plusieurs romans qui sont dans cet esprit-là.
Mais les phrases seraient plus longues, non ?
Les phrases dans Marthe ne sont pas si longues que ça. Je dis ça
pour défendre votre camarade.
Pour défendre Jacques.
Bon, donc nous avons un Barbet d'Aurevilly pour Éval Massy, un Jean Lorrain pour Patrick Beignet, un Huysmans pour Jacques Vallée. Y a-t-il un gagnant au premier tour, Patrice Delbourg ?
Alors, il y a un nom dans mes trois propositions.
Oui.
C'est pas Barbet, c'est pas Lorrain, c'est Huysmans.
Ah.
C'est Joris Karl Huysmans qui est là, mais il n'est pas seul.
Avec qui est-il ?
Il y a Alphonse Daudet.
Daudet.
Ah non.
Et Jules Vallès.
Ah oui.
Ah, non. Ah oui.
Jules Vallès.
Bon, alors, Huysmans, Daudet, Vallès. Qui veut se prononcer avec des arguments ? Ben,
moi, je vais garder Huysmans, parce que, comme je l'ai dit du premier...
Oui, il y a une logique, Jacques.
Il y a une logique, mais Vallès, d'après ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, le fait de revenir d'une manifestation et tout ça, ça pourrait être tiré de l'insurgé ou de romans comme ça, ou ça pourrait être une rencontre après les événements de la Commune, on ne sait jamais. Mais je garde Huysmans, puisque j'ai une intuition au départ.
D'accord. Patrick Beignet.
Moi qui n'ai pas eu d'intuition comme Jacques, je suis un peu embêté parce qu'en plus ces trois noms sont un peu dans la même sphère littéraire. Je ne connais pas très bien Vallès, mais l'image que j'en ai, ça concorde assez. Et cela dit, Daudet, dès qu'on sort de la Provence, on a des
choses comme ça.
Oui. Ouais. Et je choisirais donc Alphonse Daudet.
Non, moi, ce que j'ai lu de Daudet ne ressemblait vraiment pas à ça. Donc, il y avait toujours de la spiritualité, il y avait toujours de la... Enfin, c'est ciselé, c'est très précis.
Ouais.
Là, on n'est pas dans la précision. Mais pour moi, comme Huysmans, pour moi, fait des plus longues phrases, plus baroques, si vous voulez. Je garde Vallès, dont je n'ai lu qu'un livre qui ne ressemblait pas à ça. Donc, c'est vrai que c'est par défaut.
Oui.
Mais ce que je connais de Daudet, ce que je connais d'Huysmans, pour moi, ne pourrait pas être à côté de cette page-là.
On résume la situation. Pour Jacques Vallée, ce serait du Huysmans. Il l'avait dit au premier tour, il est logique avec lui-même. Pour Patrick Beignet, ce serait du Daudet. Et pour Eva, un peu par défaut, beaucoup par défaut, ce serait Jules Vallès.
Il y a forcément un gagnant.
Eh ben oui, alors, gagnant ou gagnante ?
Un gagnant. Et là, il faut célébrer la perspicacité de Jacques Vallée.
Oh non,
mais oui,
trop fort, Jacques.
Mais oui, il l'a détecté, le Joris Karl.
Tout de suite, mais ça ressemble pas du tout.
Non, parce que c'est... Mais il l'a dit, et Patrick aussi l'a conforté, ils ont parlé de Marthe.
Oui.
Et Marthe, c'est le second livre de Huysmans. Là, c'est le troisième, c'est Les Sœurs Vatar,
oui,
de 1879. Et ce livre, effectivement, est dédié en exergue, il est dédié à Zola.
Ah bon ?
Donc
ah oui.
Là, il y a quand même une surenchère dans le Misérabilis, dans la Scoumoune, dans les petits appartements des Cathy, dans les amours un peu sordides. C'est vraiment la canaille littéraire, comme disaient les Goncourt. Donc, ça n'est pas encore le Huysmans solaire de ses chefs-d'œuvre jadis.
À
Rebours, à Volo, en ménage, là-bas. Là, bon, c'est quand même très zolophile, zolaophile. Voilà.
Lui, il était très proche de Zola.
Très, très proche. Mais bon, là, il est dédié, ce livre. Alors, c'est l'histoire de deux sœurs, hein,
oui.
Désirée et Céline Vattard, qui sont brocheuses toutes les deux dans un atelier parisien. Il y en a une, Céline, qui est un vrai souillon, qui court les bons hommes avant le mariage, etc., qui a une vie assez débauchée, effectivement. Et l'autre, Désirée, qui se refuse de céder aux avances de son fiancé Auguste, jusqu'à ce fameux jour, cette fameuse scène, où avec un peu d'humidité, d'hygrométrie intime, elle se laisse aller, c'est aux deux tiers du livre, et elle finit par céder aux avances d'Auguste, voilà, dans une atmosphère lourde et des haleines de facochère.
Ah, ils vont rester ensemble jusqu'à la fin du roman.
Non, non, pas du tout. Ça se passera mal. Lui repartira. Enfin, c'est un livre un peu vraiment extrêmement décadent, avec un esthétisme quand même écaillé, la scoumoune à fleur de page et une misère à couper le souffle qui ruisselle sur les brigandages.
On pourrait le résumer, le geste auguste du trousseur.
Absolument.
Séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Le tourisme minimal, alors janvier, on le sait, est peu propice au voyage. Chacun, à peine sorti des longues vacances de Noël, travaille dur pour repartir en février avec le choix entre ski et soleil, à moins que, ô bonheur, les deux se combinent dans le même séjour. Aussi, en janvier, les Papous proposent des mini vacances ou balades qui vident la tête, donnent l'impression de s'éloigner du quotidien, même si l'on ne part pas trop loin de chez soi. Jacques Jouet, vous avez toujours avec vous dans la vie un sac à dos bien rempli, et vous m'avez expliqué un jour, parce que je m'en étonnais, pourquoi ? C'est parce que vous ne voulez pas laisser passer une occasion de partir ou de prolonger un moment ailleurs. Vous n'êtes jamais certain de rentrer dormir chez vous le soir, vous êtes toujours prêt à toutes les aventures.
Oui. J'ai le change, la brosse à dents, le couteau.
Suisse.
Non, Auvergnat.
Auvergnat, c'est mieux. Bon, donc vous êtes un homme prudent. Et là, vous nous emmenez où ? Quelle est l'expérience que vous avez faite ?
Je vous emmène chez moi.
Chez vous?
Oui, je vous emmène chez moi, dans le quartier Popincourt, puisque j'habite le quartier Popincourt.
Oui.
Et je suis tour opérateur dans mon quartier.
D'accord. Oui.
C'est un petit métier utile. C'est dans le 11e arrondissement de Paris. C'est facile à trouver. Et je fais des propositions pour arpenter le quartier. Oui. Voilà, il m'est venu cette idée. Vous savez que la rue Montmartre à Paris ne se trouve pas du tout à Montmartre.
Non.
Mais dans le 1er et 2e arrondissement, en gros, des Halles jusqu'au Grand Boulevard. Bien. Du coup, le moindre touriste un peu distrait ou trop expéditif se présente rue Montmartre et ne reconnaît pas son attente. Pas de place du Tertre, pas de Tertre, pas de but, pas de Sacré-Cœur, pas de panorama. Tout juste la poste centrale.
Ouais.
Il y avait même encore naguère une station de métro rue Montmartre qui a dû être rebaptisée Grand Boulevard pour éviter les crises de larmes des touristes déçus. C'est vrai, hein ? C'est une très belle expérience touristique de décalage urbain, semblable à celui qui est proposé par le chauffeur de taxi de Zazie dans le métro, qui confond le Panthéon et les Invalides. D'ailleurs, Queneau avait piqué l'idée à Guillaume Apollinaire, mais ce n'est pas le sujet. Le tourisme, à mon avis, est une chose trop sérieuse pour être laissée aux spécialistes. Ou au contraire, je dirais que le tourisme est une chose trop sérieuse tout court. Le touriste aujourd'hui demande qu'on lui propose un jeu avec des enjeux, une possibilité de s'égarer, de se trouver confronté à des obstacles, des échecs, des réussites. Il doit exercer son intelligence et sa sagacité. Or, dans mon quartier, Popincourt, la ville de Paris, au fil des siècles et des décennies, a eu le bon goût de nommer pas moins de 6 voies du nom de Popincourt. La rue Popincourt, la cité Popincourt, la rue de l'asile Popincourt, la rue du marché Popincourt, l'impasse Popincourt, et comme si cela n'avait pas suffi, dans un îlot de construction récente, la rue Neuf-Popincourt. Il y a même un village Popincourt qui commence à exister dans les conversations, sinon vraiment sur le cadastre. Ce n'est pas sur les plans. Avouez qu'il y a là matière à s'amuser un peu dans cette bonne ville. D'autant que les 6 voies Popincourt ne sont pas exactement toutes mitoyennes. Elles sont assez à distance pour certaines. Combien de fois, moi qui habite rue Popincourt, tiens, à 2 pas du salon de coiffure de Cheryl, la copine du poulpe. La mairie de Paris pourrait d'ailleurs bien ouvrir un de ces jours une rue Poulpincourt ou une rue Pouipincourt, pour simplifier les choses. Combien de fois, disais-je, m'est-il arrivé d'inviter quelqu'un à déjeuner pour 12h30, rue Popincourt, et nous passons à table vers 14h, les invités errant dans le quartier, de Popincourt en Popincourt, avant d'arriver à Bonport pour manger du cochon trop cuit. Ce trop long préambule étant achevé, je vais vous expliquer ce que j'explique aux étrangers qui font appel à mes services pour visiter Popincourt. Je leur dis, c'est très simple, vous descendez au métro Popincourt. Bien sûr, il n'y a pas de station Popincourt dans le métro parisien.
Ah, c'est drôle.
Ce serait trop simple. Ils notent dans leur tête ou sur un pense-bête, descendre à la station Popincourt, vous descendez à la station Popincourt, et là vous prenez à gauche, vous traversez le boulevard Richard Lenoir, vous tournez 5 fois sur vous-même à la grosse bouteille, vous faites quelques pas dans la rue Moufle qui fait un coude, et vous voilà dans Popincourt. Bien sûr, je ne leur dis pas s'il se trouve rue Neuf-Popincourt, rue du Marché Popincourt, cité Popincourt, rue de l'Asile Popincourt, rue Popincourt ou impasse Popincourt. Ça serait trop simple. Je leur dis, surtout, ne ratez pas à 17h30 le défilé des dragons chinois organisé le jour du Nouvel An chinois par les Chinois du prêt-à-porter de Popincourt. Mais je me garde bien de leur préciser si le défilé a lieu cité Popincourt, impasse Popincourt, rue de l'asile Popincourt, rue du marché Popincourt, rue Popincourt ou rue Neuf Popincourt. Tiens, l'autre jour, pour faire une petite farce, au lieu d'écrire rue du marché Popincourt dans mon descriptif de circulation pédestre, sans plan, je précise, j'interdis formellement aux joueurs d'utiliser leur GPS. Ça va de soi. Au lieu d'écrire « rue du marché Popincourt », j'ai mis « rue du maréchal Popincourt ». Ce qui sonne assez bien, je trouve.
Ouais.
Mais évidemment, il n'y a jamais eu de maréchal Popincourt. Ni même de capitaine ou de sous-lieutenant Popincourt. Puisque Jean de Popincourt n'était que le premier président du Parlement de Paris au début du XVe siècle. Alors voilà, venez voir Popincourt. Ne ratez pas Popincourt, venez vous perdre à Popincourt, donnez des rendez-vous à Popincourt. Si vous avez des enfants qui grèvent votre budget, venez les perdre à Popincourt. À Popincourt, jamais personne ne retrouve les siens.
Bon alors, quand est-ce que vous nous invitez à déjeuner rue Popincourt, qu'on se perde un peu?
Mais il faut avoir, vous savez, il faut mieux emporter de quoi manger si vous venez déjeuner.
Oui, je comprends. Je trouve que Popincourt, c'est un nom de bataille, non? La bataille de Popincourt, ça le fait.
Ah, la bataille de Popincourt.
Hein, c'est pas mal.
Oui. J'en étais resté au Maréchal, mais oui, la bataille de Popincourt. Rue de la bataille de Popincourt.
Oui, pas mal.
Avenue de la bataille de Popincourt.
Oui, ça mérite bien une avenue. On la propose à la maire de Paris?
Ah oui, on dirait un roulement de tambour un peu.
Oui. Patrick Beignet,
oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Le plus grand mal.
Popincourt et...
Je trouve tout ça sombre dans une confusion ridicule. Les ah petits oui. égoïsmes se manifestent. Enfin,
ah oui, bah oui.
Je vais régler tout ça.
Ah, c'est vrai. Ah oui, il y a trop de rues Popincourt, il faut intervenir. C'est ça l'idée.
Il y a trop de vanité dans le monde. Et donc trop de rues Popincourt, effectivement. Moi, je suis sous-directeur du service de la voirie de la ville de Paris. J'y vends des activités de divers plaisantins qui s'amusent à mystifier touristes et visiteurs en se fondant sur la multiplicité de voies répondant au même nom, quand il s'agit parfois de voies éloignées les unes des autres. Pardonnez mon style un peu administratif.
Non, mais c'est normal. Hein.
Ouais. En particulier dans le quartier Popincourt, diverses crises de larmes et scènes de désespoir se sont multipliées ces derniers temps en raison de la proximité onomastique de diverses voies. Il a donc été décidé de résorber ces perches tendues et la malignité des pervers du 11e arrondissement. Je suis assez content de mon expression. Et donc, les rues, impasses, cités et compagnies portant le nom de Popincourt vont être rebaptisées de nouveaux patronymes, à l'exception de la rue Popincourt, qui, à elle seule, doit suffire à exalter la glorieuse mémoire du maréchal. Nous avons choisi des patronymes commençant par les lettres P.O., pour ne pas trop perturber les usagers. Donc, la cité Popincourt deviendra la cité Adélaïde Poupard. La rue de l'asile Popincourt deviendra la rue Sergent Poctot, pompier victime du devoir en 1899.
Bien.
La rue du marché Popincourt deviendra la rue Jean-Marie Poupinet, vaudevilliste, auteur de la comédie Un mari sans conséquences, qui eut son heure de succès. L'impasse Popincourt, enfin, deviendra l'impasse Émile-Amboise Porcino, fondateur du bal qui portait son nom. Qu'il en soit ainsi, c'est une formule administrative au service de la
mais de politesse.
Qu'il en soit ainsi et que les plaisantins ne plaisantent plus.
Voilà, il veut mettre un petit peu d'ordre dans la folie, après tout.
Il ne veut pas mettre, il met.
Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Enfin, pour le moment, les propositions de rue ne sont pas encore acceptées.
J'ai la mairie derrière moi.
Ah bon, alors, vous êtes intouchable. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an pour la réécoute quand le désir vous prend. Les commentaires, réflexions, vous les postez sur la page du jour, rubrique commentaires, c'est pas toujours facile. Alors devenez nos amis sur Facebook, il est très simple de s'y parler et de partager. On se retrouve dimanche à 12h50 pour de nouvelles aventures papouesques. Au revoir, passez un bel après-midi bien au chaud et en bonne compagnie sur France Culture. Je...